VOA Afrique, les infos. À Washington.
Cher Robert Ursil, qui vous remercie de votre fidélité. Voici maintenant un résumé des principales nouvelles du monde. Au Cameroun, au moins 20 morts et une vingtaine de blessés, tel est le bilan provisoire du double attentat suicide survenu aujourd'hui dans la ville de Mara, capitale de la région de l'extrême nord. La première explosion a eu lieu au marché central de la ville, faisant au moins 13 morts. Et les soupçons s'orientent vers le groupe militant Boko Haram, déjà accusé d'un autre attentat suicide en territoire camerounais ce mois-ci. La force de l'Union africaine en Somalie, l'AMISOM, a démenti aujourd'hui avoir tué des civils, comme l'affirment des témoins au cours d'une opération menée la veille dans le sud somalien contre les insurgés islamistes Al-Shabaab. Les précisions d'Idrissa Seloudia.
L'AMISOM dénonce catégoriquement ces accusations, s'est-elle défendue dans un communiqué, ajoutant avoir tué 5 combattants Shabab et notamment Mohamed Dahir, l'un de leurs leaders. Selon l'AFP, des habitants de la ville portuaire de Merka, dans le sud, ont affirmé que des soldats de l'AMISOM avaient tué au moins 8 civils mardi après avoir ouvert le feu en réponse au jet d'une grenade par les insurgés. Il y a eu une attaque à la grenade qui visait le convoi des soldats. Ils ont ouvert le feu au hasard, tuant plusieurs civils, y compris des enfants et une femme, a affirmé Abdirahman Mohamed, un habitant de la ville. Ibrahim Adam, un autre témoin, a assuré avoir vu les troupes attaquer une maison après l'explosion de la grenade. Deux enfants et une femme font partie des victimes. Ils ont tiré sur tout ce qui bougeait dans la zone et toutes les victimes étaient des civils, a-t-il expliqué.
Au Burundi, toujours pas d'annonce de résultats après la présidentielle d'hier mardi. Il devrait être connu d'ici vendredi. Éric Manirakiza.
C'est Prosper Naogwamiye, le porte-parole de la Commission électorale nationale indépendante CENI, qui l'a annoncé à la VOA aujourd'hui. Aucun chiffre officiel n'a jusqu'ici été publié, mais les tendances communiquées par la CENI à la VOA placent en tête le président Pierre Nkurunziza, suivi d'Agathon Rwasa. Le président Pierre Nkurunziza, qui briguait un troisième mandat controversé, est assuré d'être élu au premier tour. L'opposition, la société civile et l'influente Église catholique estiment qu'un troisième mandat de M. Nkurunziza viole la Constitution et l'accord d'Arusha qui a mis fin à la longue et sanglante guerre civile au Burundi. Par ailleurs, l'Union africaine a annoncé ce mercredi le déploiement de militaires et d'observateurs des droits de l'homme au Burundi. Ce déploiement vise à prévenir une escalade de la violence au Burundi ainsi qu'à faciliter l'aboutissement des efforts de règlement de la grave crise que connaît le pays, précise un communiqué de l'Union africaine.
Au Burkina Faso, cette déclaration surprise de Marc-Christian Kabore, l'ancien baron du régime de l'ex-président Blaise Compaoré, devenu opposant et l'un des favoris pour l'élection d'octobre, il s'est déclaré favorable à la dissolution de la garde présidentielle. Il faut trouver des solutions pour reverser ses hommes et ses matériels dans l'armée régulière, a déclaré le président du Mouvement du Peuple pour le Progrès hier soir. Kabore souhaite avoir une armée républicaine qui soit sous un commandement unique. Considéré comme le bras armé du régime de Blaise Compaoré, cette armée dans l'armée, comme on appelle souvent le RSP, le Régiment de Sécurité Présidentielle, a récemment provoqué près de 3 semaines de crise politico-militaire au Burkina Faso. Tunis souhaite se doter d'une nouvelle loi antiterroriste. Le Parlement a entamé aujourd'hui 3 jours de débat pour adopter le nouveau texte dans un contexte de violence revendiqué par le groupe État islamique. Plusieurs versions du projet de loi sur la lutte contre le terrorisme et le blanchiment d'argent ont été élaborées ces derniers mois sans être présentées aux députés en séance plénière, faute de consensus. Plusieurs ONG, dont Human Rights Watch et Amnesty International, se sont d'ores et déjà inquiétées de mesures liberticides dans la future loi. Elles craignent notamment que la loi ne permette la répression de certains actes qui ne sont pas véritablement de nature terroriste. L'ONG Human Rights Watch a publié ce mercredi un rapport accablant dénonçant de graves exactions de l'armée sud-soudanaise commises sur les civils entre avril et juin 2015. Le document accuse l'armée sud-soudanaise d'avoir écrasé les civils avec leurs chars et brûlé vifs des villageois. Début juillet, le gouvernement avait annoncé déjà enquêter sur les accusations de l'ONU selon lesquelles ses troupes avaient violé et brûlé vifs de jeunes filles. Les précisions de Tatiana Mosso.
Le document est intitulé « Ils ont tout brûlé ». Il compile 174 témoignages de victimes recueillis dans l'état de l'unité dans le nord du pays. Des récits d'attaques délibérées contre des civils qui constituent des crimes de guerre, selon Human Rights Watch. L'ONG accuse les troupes sud-soudanaises, principalement des Dinka, d'avoir exécuté sauvagement des civils ciblés selon des critères ethniques, les victimes étant majoritairement des nuers. Les auteurs du rapport font également état de 63 cas de viol, mais estiment qu'il ne s'agirait que d'une partie du nombre total. Le viol, souvent commis en public et qui serait devenu une arme banale selon des témoignages. Les forces rebelles sont elles aussi accusées d'avoir commis des atrocités et, comme le gouvernement, d'avoir recruté des enfants soldats. L'armée n'a pas souhaité répondre aux accusations de l'Organisation de défense des droits de l'homme.
Les rebelles du Soudan du Sud ont annoncé aujourd'hui s'être séparés d'un de leurs plus importants commandants militaires. Le chef des rebelles, Riek Machar, ex-vice-président du pays, a remplacé l'influent seigneur de guerre Peter Gadet, qui fait l'objet de sanctions des Nations Unies. Les rebelles parlent de remaniement ordinaire. Peter Gadet, qui opère depuis des dizaines d'années dans l'état d'unité, a été remplacé par le général James Kwang Chuol, un autre militaire également sur la liste noire de l'Organisation des Nations Unies.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Dans le reste du monde, en Afghanistan, au moins 19 personnes ont été tuées et 35 autres ont été blessées dans un attentat suicide survenu sur un marché du nord du pays. L'objectif principal était apparemment un groupe de militaires, mais la majorité des victimes sont des civils innocents. Personne n'a encore revendiqué la responsabilité de cet attentat, dont le bilan pourrait augmenter. La région connaît de fréquents affrontements entre les talibans et les forces de sécurité. L'intensification des combats au Yémen accroît le nombre de victimes civiles, selon l'ONU. Un rapport du Haut Commissariat pour les réfugiés indique que plus de 3600 personnes, près de la moitié étant des civils, ont été tuées depuis le début, le 26 mars, des bombardements aériens de la coalition saoudienne contre les rebelles houthis soutenus par l'Iran. Le secrétaire américain à la Défense, Ashton Carter, est en visite aujourd'hui en Arabie Saoudite dans le cadre d'une tournée régionale visant à rassurer les alliés des États-Unis concernant l'accord sur le programme nucléaire iranien. En Turquie, les autorités ont temporairement bloqué tout accès au site de Twitter afin d'empêcher la distribution de photos relatives à l'attentat à la bombe de lundi qui a fait au moins 30 morts près de la frontière syrienne. La mesure a été par la suite annulée après que le réseau social a enlevé des messages jugés malicieux conformément à l'ordre d'un tribunal, a déclaré un responsable du gouvernement à Ankara. Le kamikaze, Saïd Abdurrahman Alagoz, est un jeune Turc de 20 ans. La cible de l'attaque était un groupe qui se préparait à se rendre en Syrie pour participer à la reconstruction de la ville de Kobané. En Grèce, les banques ont fonctionné aujourd'hui pour la première fois en 3 semaines, mais le contrôle des capitaux imposé par le gouvernement d'Alexis Tsipras reste en vigueur. Le Premier ministre a rencontré les responsables du secteur bancaire alors que le Parlement tenait une réunion d'urgence sur une deuxième série de réformes dont dépend le versement de nouveaux fonds des bailleurs européens. Alexis Tsipras a promis de tout faire pour que les citoyens les plus vulnérables ne soient pas affectés par les nouvelles mesures. Et nous revenons sur cette importante information concernant le Cameroun. Au moins 20 morts et une vingtaine de blessés. C'est le bilan provisoire du double attentat suicide survenu aujourd'hui dans la ville de Maroua, capitale de la région de l'extrême nord du Cameroun. À signaler que la première explosion a eu lieu au marché central de la ville. Elle a fait au moins 13 morts. Les soupçons s'orientent vers le groupe militant Boko Haram, qui est déjà accusé d'un autre attentat suicide en territoire camerounais ce mois-ci. Et la force de l'Union africaine en Somalie, de son côté, a démenti avoir tué des civils, comme l'affirment des témoins au cours d'une opération menée la veille, donc hier, dans le sud somalien, contre les insurgés islamistes Shebab. Voilà pour ce résumé des principales nouvelles du monde. Washington, chez Robin Dorsil.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.